C'est un numéro exceptionnel de BFM Politique aujourd'hui avec le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, que j'interroge en compagnie de Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV, et Louis Osalter de Marianne. Nous avons beaucoup, beaucoup de questions à vous poser, évidemment, Jérôme Salomon, au sujet de cette pandémie qui nous occupe quotidiennement depuis plus d'un an, même maintenant. J'aurai aussi des questions à titre plus personnel, parce qu'il a été question de votre départ dans ces prochains jours, semaines, vous nous direz, et de la façon également dont vous avez traversé cette épidémie. Je voudrais commencer par l'actualité. Nouvelle journée de mobilisation hier, 8e samedi d'affilée. Pour ceux qui sont contre le vaccin, contre le pass sanitaire, souvent ceux qui sont contre le vaccin sont contre le pass. Ceux qui sont contre le pass ne sont pas forcément anti-vaccins. Bref, quel regard vous portez sur cette mobilisation ?
Moi, je trouve qu'actuellement, nous sommes dans une période décisive, cruciale, peut-être un tournant important de cette quatrième vague. Il me semble que nous sommes tous vigilants à cette rentrée, parce qu'on est rentré de vacances, il y a la reprise, il y a la rentrée scolaire aussi, qui peut inquiéter les parents. Et donc, nous sommes mobilisés en ce week-end, tout particulièrement pour la vaccination. Et moi, je suis confiant, parce que je trouve que les Français font preuve de plus en plus de confiance, font preuve de plus en plus de collectif. Ils ont compris l'intérêt de la vaccination en termes de projet collectif. Et par ailleurs, je suis très fier des professionnels de santé. Donc, je trouve qu'on est vraiment de plus en plus, jour après jour, vacciné après vacciné. On est aujourd'hui à 80% de personnes totalement vaccinées parmi la population cible. C'est énorme. La France est quand même parmi les pays qui ont le plus vacciné, dont les Français sont les plus concernés, conscients des bénéfices de la vaccination. Donc moi, je retiens ces points importants. Quant aux personnes qui doutent...
Vous êtes attentif, mais pas inquiet de cette mobilisation.
Non, je suis totalement vigilant, totalement mobilisé, mais je ne suis pas inquiet parce que j'ai l'impression que de plus en plus de Français, jour après jour, discutent, argumentent, et c'est tout à fait français que de discuter et d'argumenter, c'est normal. Mmh. J'ai vacciné pendant des années, et les gens ont des questions, ils ont des inquiétudes, ils ont des doutes tout à fait légitimes, et chaque fois que les professionnels de santé qui sont tous mobilisés ce week-end, et qui sont tous mobilisés depuis des mois, expliquent, trouvent des arguments individuels, répondent à des inquiétudes qui peuvent être très profondes, très légitimes, on gagne à chaque fois, et à chaque fois qu'on a une personne de vaccinée, une personne de convaincue, on a avancé dans la lutte collective contre ce virus.
Vous parlez des réticences qui subsistent, même parmi les soignants. Je vous propose d'écouter Amandine. Je l'ai interrogée hier soir sur cette antenne. Elle a 39 ans, elle est infirmière en hôpital psychiatrique, elle élève deux enfants, seule, et pourtant elle préfère être suspendue de son travail que d'être vaccinée. Écoutez.
J'ai choisi de ne pas me faire vacciner parce qu'au niveau bénéfice ou risque, vu mon âge et mon état de santé, je pense que j'ai moins de risques d'attraper la Covid que de me faire vacciner avec les effets secondaires qu'il peut y avoir du vaccin. Je ne suis pas du tout contre le vaccin, j'ai fait les autres. Seulement là, pour moi, c'est expérimental. C'est allé trop vite, on a voulu nous l'imposer. J'ai trop de pourquoi, j'ai trop d'incohérences. Pour moi, les choses ne sont pas assez claires. Et ce qui est important, là, c'est la santé qui est en jeu. Donc pour la santé, je ne ferai pas de... Je ne mettrai pas ma santé en jeu, donc je préfère quitte à perdre mon travail.
Vous comprenez ces arguments ? Vous les entendez souvent ?
Absolument. D'abord, en tant que professionnel de santé, j'ai beaucoup vacciné autour de moi d'autres professionnels de santé et j'ai toujours remarqué qu'il faut une grande proximité parce qu'on a des personnes en qui on a confiance. Et donc, il faut discuter peut-être avec un collègue, avec une infirmière, avec un médecin du service. Parce qu'on a des référents. Et là, c'est très intéressant ce témoignage, parce qu'elle dit qu'elle n'est pas du tout contre les vaccins, et d'ailleurs qu'elle a eu les autres vaccins, mais qu'elle s'inquiète contre ce vaccin. Et là, il y a aussi des arguments très importants. Les arguments de nombre de doses, on est à plus de 5,5 milliards de doses dans le monde depuis maintenant 10 mois. On a les arguments de transparence totale sur les effets secondaires du vaccin. Si vous allez sur le site de l'Agence du médicament, tous les effets secondaires sont disponibles en ligne. Donc on voit bien que les bénéfices du vaccin sont considérablement plus importants que les risques qui existent, évidemment. Il peut y avoir des effets secondaires de temps en temps. Et il y a un autre élément très intéressant dans ce qu'elle vient de dire, c'est je préfère être infecté que d'avoir le vaccin. Et ça, c'est quelque chose que vous avez déjà discuté souvent sur vos plateaux, c'est-à-dire l'inquiétude vis-à-vis de l'ARN messager. Et donc, vous avez bien répété à de nombreuses reprises que cet ARN messager ne pénètre que dans la cellule et pas dans le noyau qui défend notre ADN. Et ça, c'est très important, qu'il reste très peu de temps et qu'il mime finalement l'infection, puisque quand le virus, le coronavirus, rentre dans vos cellules, il y a une production massive d'ARN messager pour répondre à sa demande. Il utilise nos cellules comme usine de production et de production de milliards d'autres virus. Donc vous voyez que la comparaison entre ce que fait le virus quand on est infecté et ce que fait le vaccin est totalement, complètement évidente. Et donc tout ça est très intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un week-end de mobilisation contre la vaccination, sur la vaccination. Et peut-être que c'est le moment aussi pour toutes les personnes qui ont des questions d'aller voir les professionnels de santé, ce qu'on ne dit peut-être pas assez, d'aller discuter avec la pharmacienne, d'aller discuter avec les personnes dans les centres en disant peut-être que je vais me faire vacciner, mais j'ai encore des questions. Et c'est vraiment le moment d'aller rencontrer les professionnels de santé, puisqu'on a une opération vraiment de centres absolument partout, de centres éphémères, d'opérations spéciales. Et donc, aller sur les sites des ARS, aller dans les centres ce week-end pour vous faire vacciner ou tout simplement pour poser des questions, parce que ce dialogue est utile et chaque vaccination supplémentaire sera très importante.
Vous avez dit il y a quelques instants, on est à une période décisive, à un tournant de cette quatrième vague. Demain, premier lundi, après la rentrée scolaire, quel peut être l'impact de cette rentrée sur l'épidémie, sachant qu'on a encore 2 millions d'ados et 9 millions d'enfants non vaccinés dans les écoles?
Alors, on a une quatrième vague qui évolue favorablement, puisqu'on a baissé de 20% le nombre de cas en une semaine. Donc ça, c'est un élément important, même si la situation, vous savez, reste très difficile dans les Outre-mer. On a effectivement une attention toute particulière pour la rentrée. Pourquoi ? Parce que d'abord, on est revenu de vacances. Vous avez vu, il y a des grands mouvements de population. Deuxièmement, tout le monde retourne au travail. Et troisièmement, il y a cette fameuse rentrée scolaire. Dans certains pays, ça ne s'est pas très bien passé. On a vu depuis quelques jours, par exemple, l'Écosse. Mais inversement, à La Réunion, puisqu'ils sont rentrés à La Réunion, ça s'est bien passé. Donc, on fait vraiment tout pour que cette rentrée se passe bien, parce qu'on a tous les outils, et donc il faut les utiliser, pour que cette rentrée se passe bien. Quels sont ces outils ? La vaccination des grands. Parce que la meilleure protection des petits, c'est la vaccination des grands. Les masques, les tests, l'aération, le protocole sanitaire que les parents et les professeurs ont bien expliqué aux enfants. Donc tout ça fait qu'on a les moyens que la rentrée se passe bien, mais on est effectivement vigilant. Et plus on sera vacciné, moins il y aura de soucis. Et donc, vous avez dit, il reste quelques millions. En fait, vous savez qu'il y a à peu près 57 millions de Français qui sont éligibles à la vaccination. On approche les 50 millions, donc vous voyez qu'il reste quelques millions de personnes à convaincre. La grande priorité, ce sont les personnes les plus fragiles, âgés. Il y a un vrai engouement des adolescents pour la vaccination. C'est quand même, ils sont en train de rejoindre les adultes. Ça, c'est quand même une très belle surprise. On a l'impression qu'ils le font pour eux, pour leurs proches, mais aussi pour le collectif, parce qu'ils se rendent compte qu'ensemble, ils peuvent sortir, ils sont tranquilles parce qu'ils sont tous vaccinés, ils ont envie d'assister aux cours. Donc ça, c'est un très beau message. Et puis, nous aurons ensuite à organiser la suite des rappels et l'adaptation progressive de notre politique des vaccinales.
La suite, est-ce que c'est aller en dessous des adolescents ? Est-ce qu'il faut vacciner les moins de 12 ans ?
Alors, aujourd'hui, la priorité, c'est vacciner ces adolescents de plus de 12 ans. On n'en est pas du tout à la vaccination des enfants pour plein de raisons. D'abord, parce qu'il manque des données scientifiques. Ensuite, parce que les études sont en cours. Et donc, comme d'habitude, on va s'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques. On a eu ces avancées sur les 12-17 ans. Et on s'adaptera. On est en très étroite collaboration avec les pédiatres qui regardent de très près ce qui se passe chez les enfants. Et là, j'ai un message important pour les parents. Il n'y a pas de signal aujourd'hui d'aggravation de la maladie Covid chez les enfants. On n'a pas deux fois ou trois fois plus de cas graves chez les enfants. Et ça, c'est un signal très important. Il n'y a pas d'alerte. Il y a beaucoup plus de cas chez les enfants, des cas bénins, les consultations. Mais on n'est pas devant un signal d'aggravation. C'est important parce que c'est aussi un élément qui est partagé avec les autres pays, en particulier les États-Unis.
Mais on aborde la rentrée, c'est vrai, avec des taux d'incidence, notamment chez les petits, qui sont parfois cinq fois supérieurs à ceux qu'on avait connus l'an dernier à la même époque.
Oui, parce que finalement, les petits, il y a ce brassage de population. On l'a très bien vu cet été, c'était assez fascinant de voir l'évolution de l'épidémie, qui était d'abord une épidémie de jeunes, les 20-39 ans, puis c'est passé un peu plus chez les adultes plus âgés, puis ensuite chez les enfants, parce que les enfants, évidemment, partagent la vie des adultes. Et donc, comme ces enfants, en particulier en primaire, ont une vie sociale moins intense, la meilleure protection, c'est la vaccination des adultes qui sont avec eux. Et donc, c'est ce qu'on va faire pendant toute cette rentrée. Être très attentif, il y a un protocole sanitaire très clair, il y a un protocole très protecteur, puisque à partir du moment où il y aura un cas, on fermera la classe dans l'école primaire qui est concernée. Donc, c'est un protocole qui est à la fois très attentif au maintien de l'accès à l'éducation et très attentif à protéger les enfants. Et je crois notamment, puisque vous parliez des ados, les ados ont très bien compris qu'ils se protègent, ils protègent les autres, mais ils protègent aussi leurs copains, dont certains sont fragiles. Et ça, ils l'ont aussi constaté parce qu'il y a aussi des maladies graves parmi certains ados. Et donc, ce côté collectif, ce côté redonner du sens à un projet collectif, je le trouve vraiment magnifique.
Monsieur Salomon, je voudrais que nous intéressions à nos compatriotes d'outre-mer. Que pouvez-vous nous dire ce midi de très clair sur l'évolution de la situation en outre-mer qui a été qualifiée, notamment aux Antilles, par le Conseil scientifique de dramatique dans le dernier rapport?
Alors, nous avons vécu une vague Delta aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique et puis en Polynésie française, qui a été extrêmement violente. Vous avez signalé des taux d'incidence, 3000 par exemple en Polynésie française. Ça veut dire quoi 3000 pour 100 000? Ça veut dire 3% par semaine. C'est-à-dire 3% de la population est touchée par semaine. Ça vous laisse imaginer l'impact pour des populations fragiles, pour des populations âgées, pour des populations malades, en termes d'hospitalisation. Et donc nous avons assisté cet été à un élan de solidarité historique, inédit. J'ai été saluer les professionnels de santé qui se sont portés volontaires, qui ont interrompu leurs vacances, qui ont quitté leur service pour aider. C'est 1800 professionnels de santé qui sont partis en 4 semaines. Ce sont des cargos entiers qui sont partis, ce sont des traitements, ce sont des vaccins que l'on a donnés à disposition. C'est un énorme effort. Aujourd'hui même, on a dépassé ce dimanche plus de 100 évacuations sanitaires transatlantiques. C'est quelque chose qu'aucun autre pays ne fait. C'est-à-dire qu'on va chercher des malades intubés, ventilés, vraiment extrêmement lourds de réanimation pour traverser l'Atlantique et les ramener. Plus de 100.
Plus de 100.
Donc c'est un pont aérien. Ils sont amenés dans les hôpitaux de métropole pour soulager la pression dans les Antilles. Et aux Antilles, actuellement, il y a un effort de vaccination. Tant mieux, parce que c'est aussi ce message-là. Malheureusement, c'est une épidémie de non-vaccinés. Et c'est peut-être là qu'on peut utiliser le terme dramatique. Pourquoi dramatique ? Parce qu'on voit bien que l'absence de couverture vaccinale suffisante entraîne ces drames, parce que c'est à chaque fois des drames humains que d'avoir un proche en réanimation ou des décès. Et malheureusement, les Antilles ont beaucoup souffert. La Polynésie française est aussi massivement aidée, et tant mieux, parce que vous avez noté qu'elle était très touchée. Mmh. Et on surveille évidemment l'ensemble des territoires ultramarins, comme la Guyane aussi, qui pourrait être touchée et pour lesquels on fait des efforts importants de vaccination.
Alors justement, la vaccination, week-end particulier, Margot. Hein.
Oui, week-end particulier d'appel à la vaccination sans rendez-vous. Est-ce que vous avez un premier bilan à nous donner, sachant que la vaccination perd dans son rythme? On est à un rythme de primo-vaccinés qui n'avait plus été atteint depuis 6 mois, à un niveau aussi bas.
Oui, alors il y a eu l'été, il y a eu le retour, il y a l'organisation de la rentrée. Moi, je suis quand même très optimiste sur le fait que les Français ont très bien compris l'importance de la vaccination. On a fait vraiment, je crois, ce week-end, la preuve de l'immense richesse de l'offre. Hein. On parle des centres, on parle des centres éphémères, on parle des opérations spéciales ce week-end. Il y a des centres à proximité immédiate, des lieux de vie, des lieux de course. Il y a tous les professionnels de santé sont mobilisés et on peut vraiment les remercier parce que là, en plein week-end, ils sont tous disponibles. Ce sont des millions de doses qui sont disponibles. Ce sont des créneaux ou même des rendez-vous inutiles puisqu'on peut y aller sans rendez-vous. Et moi, j'insisterai aussi sur l'allée vert parce qu'il y a aussi des gens qui ont du mal à se déplacer. Et donc, on fait très attention. On a de très nombreuses opérations d'allée vert. Il y a plus d'un million de Français qui ont été vaccinés par les opérations d'allée vert. C'est quoi ? C'est aller carrément chez les gens. Et donc, ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et je lance un appel encore complémentaire. Quand vous connaissez des gens qui ne sont pas vaccinés parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, signalez-le parce qu'on peut trouver des moyens d'envoyer une équipe ou de trouver un professionnel qui est vraiment à très grande proximité qui peut s'occuper de cette personne. Donc, même l'entourage peut signaler qu'il a une personne qui est vraiment en urgence prioritaire, c'est-à-dire une personne de 80, 85 ans qui est toute seule, qui a vraiment des grandes difficultés à rejoindre un centre. Toutes ces personnes-là sont la priorité absolue. Ensuite, on est confiant dans la vaccination complémentaire des adolescents qui, eux, dans une forme d'émulation collective, sont en train de s'auto-stimuler pour être vaccinés.
Vous avez évoqué tout à l'heure le dernier objectif de vaccination en date, 50 millions. On est à 49, un peu plus de 49. Quand est-ce que nous l'aurons atteint ?
Le plus vite possible. On attend évidemment, comme vous le disiez, les résultats de ce week-end. Enfin, on voit bien que ça sera atteint dans les prochains jours. Mais j'allais dire, ce n'est pas tellement les 50 millions qui comptent, c'est qu'on soit le plus haut possible dans l'ensemble de la population éligible. Je vous disais tout à l'heure qu'on a déjà 80% de cette population qui est parfaitement vaccinée. C'est un chiffre très important. On a en France la chance d'avoir des promotions de jeunes qui sont importantes. Donc on est effectivement avec 12 promotions de 0 à 12 ans qui ne sont pas éligibles à la vaccination.
Donc c'est-à-dire la semaine prochaine, typiquement, fin de semaine prochaine, on pourrait être à la barre des 50 millions.
Oui, on peut l'espérer et on peut même espérer aller le plus haut possible puisque la vaccination des adolescents, ces opérations d'aller vers, ces opérations sans rendez-vous absolument partout sur l'ensemble du territoire, il faut vraiment vous encourager à y aller, à vous appuyer sur les professionnels de santé, à poser des questions aux professionnels de santé.
Alors,
et à déclarer aussi une personne qui pourrait y aller mais qui n'a pas les moyens matériels d'y aller pour qu'on puisse organiser des choses.
Déclarer à qui ?
Aux professionnels de santé à côté, aux associations, aux collectivités locales qui sont extrêmement mobilisées. Les maires sont très mobilisés. Donc signaler à un maire que 2 ou 3 personnes n'ont pas accès parce qu'elles n'ont pas de moyens, par exemple, pour s'y rendre. Tout ça, c'est extrêmement mobilisé. C'est une très forte mobilisation de terrain et vraiment merci
Jérôme
à l'ensemble des acteurs.
Vous parlez du dialogue et des réticences possibles chez certains sujets de la vaccination. Louis, un point très important qu'on entend souvent chez ceux qui ont des doutes.
Tout à fait. Même chez les personnes vaccinées, des gens contractent le Covid et chez personnes qui ont un schéma complet, qui ont leurs 2 doses. Est-ce que vous avez des chiffres sur ce type de contamination-là, les gens qui sont vaccinés ?
Très important. D'abord, je vous l'ai dit, 80% des adultes, et même peut-être un peu plus maintenant, puisqu'on compte les adolescents, sont vaccinés. Mathématiquement, plus on a de personnes vaccinées, plus on a de probabilités de tomber sur des personnes positives parmi ces vaccinés, puisqu'ils sont maintenant l'immense majorité. Il y a des chiffres très récents qui sont nationaux, qui sont en open data et qui correspondent à l'ensemble des patients qui ont un test positif, à l'ensemble des personnes qui sont hospitalisées et à l'ensemble des personnes qui malheureusement décèdent. Et on a un effet protecteur du vaccin sur le décès et sur le risque d'hospitalisation en réanimation. Vous voyez tous ce que c'est que de la réanimation. C'est un stress, c'est une agression épouvantable que de se retrouver en réanimation. C'est vraiment très traumatisant. Un risque divisé par 10 sur les données françaises du mois d'août. Donc ça veut dire que quand on est vacciné, on a 10 fois moins de risques de se retrouver en réanimation. C'est quand même quelque chose d'énorme en termes de prévention.
Est-ce que par exemple vous pouvez nous dire sur le nombre de personnes contaminées, combien ont été vaccinées et sont contaminées quand même?
Oui, c'est une réduction d'un facteur 7 à 8 aujourd'hui, donc c'est quand même tout à fait considérable. Et c'est aussi un élément important, c'est que ce n'est pas parce qu'on est positif qu'on est contaminant. Donc il y a aussi des éléments importants. On est vacciné, on peut être porteur, on peut être éventuellement contaminant, on peut être éventuellement même malade, mais avec un facteur de protection considérable. Et donc il y a un effet qui est individuel et un effet collectif. Qu'est-ce que ça veut dire? L'effet individuel, c'est que vous êtes protégé et que vous n'irez probablement pas en réanimation. Ça, c'est un facteur majeur. L'effet collectif, c'est que quand le virus circule, comme ici, puisqu'on vous avez noté qu'on est dans un milieu très protégé, puisqu'on est vacciné, qu'on est à grande distance et que le traitement de l'air est important, plus les personnes sont vaccinées dans un collectif, moins le virus circule. En fait, on forme une barrière collective, un bouclier collectif. Et ça, c'est important parce que cet effet-là entraîne la disparition de la circulation virale. On le voit dans les pays qui sont le plus vaccinés, dans les collectifs qui sont le plus vaccinés. Et on voit aussi, ça c'est un élément qui frappe les Français, que les territoires les moins vaccinés ont une incidence supérieure, ont plus de cas, et que les territoires les plus vaccinés sont ceux aussi où l'incidence est la plus faible. Et ça, ce sont des arguments très forts.
Sur la campagne vaccinale, vous avez souligné qu'elle avançait très vite chez les ados. En revanche, elle patine chez les plus âgés. Aujourd'hui, on a encore 15% des 80 ans et plus qui ne sont pas vaccinés. Ce sont les chiffres du ministère de la Santé. Comment vous expliquez qu'il reste autant de gens vulnérables qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui?
Alors, je pense que c'est justement tout l'enjeu de ces opérations d'aller vers. D'abord, ils sont quelques centaines de milliers, hein, puisque les plus de 85 ans, on les suit de très près. Il y a quand même des taux de vaccination qui sont très élevés. Il y a notamment une vraie réussite de la campagne de vaccination dans les institutions, dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Mais c'est aussi une part de la population qui est isolée.
Ce sont les gens à domicile, pas dans les EHPAD.
Les personnes qui ont du mal à se déplacer, qui sont souvent seules, qui sont souvent dans les territoires ruraux. Et donc, c'est pour ça qu'on multiplie les opérations d'aller vers. Il y a eu plusieurs milliers d'opérations d'aller vers. Il y a eu plus d'un million de personnes qui ont été vaccinées ainsi, vraiment à domicile. Mais je vous encourage en plus à signaler que vous seriez d'accord pour une vaccination, mais que vous n'avez pas les moyens d'y aller parce que le centre est parfois loin, parce que prendre un rendez-vous chez le médecin quand on est avec des difficultés pour appeler, pour utiliser Internet, c'est difficile. Et donc, utilisez votre entourage, utilisez votre infirmière, utilisez vos voisins pour dire, moi, pourquoi pas, mais il faut m'aider. Et je pense que c'est comme ça qu'on réussira, parce que là, on est vraiment sur une population qui a l'habitude de se faire vacciner, qui est en général bien suivie par le médecin, mais parfois, aller chez le médecin peut être compliqué pour ces personnes, aller jusqu'au centre de vaccination, et donc c'est aux équipes de vaccination de se rendre au plus près sur le terrain de ces personnes qui souhaitent se faire vacciner. Et c'est effectivement l'urgence absolue que de couvrir au maximum cette population à risque. Pourquoi? Parce que ces personnes sont celles qui vont finir potentiellement en réanimation, et c'est ce qu'on doit absolument éviter. Alors que du côté des adolescents, l'objectif est très différent, et ils l'ont parfaitement compris, c'est un objectif de réduction de la circulation virale, parce que si dans un collège ou dans un lycée, on a énormément d'adolescents vaccinés, on aura de moins en moins de risques d'avoir de la circulation et des fermetures de classe.
85% des plus de 80 ans sont vaccinés, à contrario, contre eux, on est quasiment à la quasi-totalité chez nos voisins espagnols ou portugais ou même au Royaume-Uni. Comment on explique cette différence, qu'on a du mal, qu'on est obligé justement d'organiser ces campagnes d'aller vers avec des convocations maintenant envoyées par l'assurance maladie avec une date, une heure et un lieu pour se faire vacciner? Comment on explique cette différence entre notre pays et nos voisins? Est-ce que c'est lié au tissu familial, à l'organisation sociale?
Il y a probablement différentes explications. Alors après, vous savez qu'il y a aussi des organisations différentes, une démographie différente et une institutionnalisation différente dans les différents pays. La France est d'ailleurs parmi les pays qui est le mieux vacciné aujourd'hui, donc ça c'est grâce à la mobilisation des Français. Mais effectivement, on doit tenir compte de ces quelques centaines de milliers de Français qui sont seuls et parfois loin du soin. Et donc c'est toute la richesse de toutes les interventions qu'on fait maintenant vraiment avec les associations, avec les professionnels du territoire et avec les élus.
Dans l'idée de se rapprocher de ces gens, Margot souhaitait vous interroger à ce propos. Quand est-ce que le vaccin Pfizer va arriver chez les médecins de ville?
Alors là, c'est imminent. Vous savez qu'on est en train justement de faire en sorte que tous ces vaccins soient disponibles. Vous savez aussi...
Imminent, ça veut dire quoi,
c'est en cours. On est en train de le faire et c'est très important puisque c'est surtout les officines pharmaceutiques qui vont être approvisionnées. On a énormément de doses, on a tous les vaccins, ça c'est très important.
Mais ça veut dire à la fin du mois?
Non, c'est maintenant.
Dans les jours qui viennent?
Absolument. Et d'ailleurs, ils passent leurs commandes et dans les deux sens, puisqu'on a aussi l'objectif que tous les centres aient accès à tous les vaccins. Il y a un point très important qui a été rappelé par la Haute Autorité de santé, et ça je pense que c'est important que les Français le sachent, on peut se vacciner en croisant les vaccins. Il n'y a aucune différence. Donc, quelqu'un qui a eu du Pfizer peut avoir du Moderna. Quelqu'un qui a eu du Moderna peut avoir du Pfizer. Ça rassure.
Pardonnez-moi d'insister sur ce point, mais je pense que c'est très important pour les gens qui nous regardent, qui entendent donc de la bouche du directeur général de la santé qu'ils pourront bientôt se faire vacciner par leur médecin traitant.
Mais c'est déjà le cas.
Avec du, oui, bien sûr, mais oui. Avec un accès beaucoup plus facile au Pfizer.
Très, très proche de leur pharmacien.
Bien sûr.
Ça, c'est très important.
Mais à partir de quand est-ce qu'ils vont pouvoir appeler?
Non, mais c'est maintenant. Hein. On est vraiment.
Donc, ils vont pouvoir appeler la semaine prochaine.
Absolument. Et donc, ça, c'est important parce qu'on est en train de mettre en place cette offre maximale. Je parlais de l'offre de soins, donc qui est centre éphémère, à côté des centres commerciaux, à côté des lieux. Des établissements scolaires, par exemple. C'est très important. Vous savez qu'il y a des équipes qui vont dans les établissements scolaires et il y a aussi des classes qui vont juste à côté dans un centre pour se vacciner. Donc, toutes ces opérations de proximité, le fait que l'ensemble des vaccins seront disponibles, parce qu'il y a des gens qui veulent un vaccin plus qu'un autre, alors qu'ils sont aussi efficaces, le fait qu'on puisse faire un croisement de vaccins, c'est aussi rassurant, parce qu'on attend toujours de se dire, est-ce que j'ai déjà eu un Pfizer et je dois avoir un autre Pfizer, ou est-ce que je peux croiser? Ça, c'est très important. Et puis, on va avoir en plus, et c'est important, un message que je voudrais passer, le fait que la même population sera concernée par le rappel de vaccination Covid et par le rappel de grippe. Et donc là aussi, même population, organisation simplifiée pour pouvoir faire au même endroit, avec son professionnel de santé, les deux vaccins.
Et justement, est-ce que cette troisième dose, enfin, il faut dire dose de rappel pour être plus exact, c'était vraiment l'urgence? On voit que les agences nationales ou parfois internationales de santé ne sont pas d'accord là-dessus, quand on voit notamment le niveau de vaccination, le taux de couverture vaccinale en Afrique qui est résiduel.
Alors, plusieurs points. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, la première priorité, c'est de vacciner les personnes qui ne le sont pas. Donc, en particulier, les personnes âgées, les personnes fragiles, ceux qui sont immunodéprimés et qui n'ont pas encore eu de vaccination. Vraiment, là, je les incite, c'est la priorité absolue. La deuxième priorité, c'est de finir cette couverture vaccinale, notamment chez les ados, mais ils ont une dynamique très positive et donc on va y arriver. La troisième priorité, c'est effectivement qu'on a observé, et ce n'est pas une décision politique du tout, c'est vraiment un argument scientifique, on a observé que les personnes les plus fragiles, que les personnes malades, on a vu notamment les dialysés, les personnes sous chimio, les personnes qui ont des cancers, perdent rapidement leur titre d'anticorps. Ce sont des données internationales, ce sont des données américaines, ce sont des données israéliennes. Et donc on se rend compte que pour garder une bonne immunité, pour avoir un niveau d'anticorps suffisant, il faut proposer ce rappel. Ce sont des données scientifiques. Les autorités européennes s'en occupent actuellement et c'est pour ça qu'elles ont mobilisé l'ensemble de l'expertise disponible. Et puis, vous avez parlé de la solidarité internationale. La France est vraiment leader. C'est un pays extrêmement généreux et très solidaire. Et le président de la République, en particulier, a pris la tête de cette croisade pour aider les pays les plus pauvres à accéder aux vaccins. Et donc, il y a des initiatives françaises, des initiatives de santé mondiale qui sont portées par la France. Et donc, je crois qu'on a montré qu'on était capable de vacciner notre population au mieux avec une population qui suit et qui a bien compris l'importance de la vaccination, tout en étant toujours généreux et solidaire vis-à-vis des pays qui en ont besoin. Et de toute façon, on a tous besoin de se mobiliser dans le monde entier pour lutter collectivement contre la pandémie.
Jérôme Salomon, un mot, s'il vous plaît, au sujet de la Nouvelle-Calédonie. Donc, la vaccination va devenir obligatoire. Ça vous semble, je veux dire, normal presque? Parce que la question en France, elle est loin, loin d'en être là.
La Nouvelle-Calédonie, c'est un exemple très intéressant. D'abord, c'est une île, et vous savez qu'ils sont Covid-free, comme ils disent. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas eu de Covid compte tenu du fait qu'ils ont fait très attention aux entrées. Ils ont pris une décision extrêmement claire et extrêmement courageuse, qui a été basée d'abord sur des décisions locales. Hein, ce sont les élus de Nouvelle-Calédonie qui l'ont prise. En observant quoi? En observant la situation en Polynésie française. En se disant, quand le territoire est à distance, parce que l'effet distance compte, on se dit, c'est tellement loin, ça ne va pas nous arriver. Quand le variant Delta arrive sur une population insuffisamment vaccinée, il y a des conséquences considérables qu'on a vues, notamment sur les hôpitaux à Tahiti. Et donc, ils ont pris cette décision, qui est une décision très claire, qui est une décision basée sur l'observation, dans une population qui n'a pas encore été immunisée et qui est encore peu vaccinée. Donc, c'est un encouragement très fort des autorités.
C'est-à-dire que la menace qu'avait laissé planer Emmanuel Macron de le rendre obligatoire en France métropolitaine, elle n'est pas du tout d'actualité.
Écoutez, nous, on est en train de favoriser cette adhésion à la vaccination et on peut se féliciter que jour après jour, le nombre de vaccinés augmente.
Jérôme Salomon, reste avec nous s'il vous plaît. Dans un instant, nous avons encore beaucoup de questions au sujet notamment du pass sanitaire qui inquiète, qui interroge. Et puis des questions aussi d'ordre plus personnel. A priori, vous allez partir de ce poste de DGS. Vous me direz si c'est vrai et peut-être quand. A tout de suite. Numéro exceptionnel de BFM Politique en compagnie du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Nous avons encore beaucoup de questions à vous poser, notamment sur le pass sanitaire qui est prêt à débat, qui a même été parfois suspendu par la justice encore hier. Mais avant ça, je voudrais vous poser quelques questions d'ordre plus personnel. Est-ce que déjà vous nous confirmez, Jérôme Salomon, que vous allez quitter vos fonctions de directeur général de la Santé?
Écoutez, aujourd'hui, je suis totalement mobilisés. On approche les 600 jours de lutte contre la pandémie avec mes équipes, avec les équipes des ARS, avec les professionnels de santé. Donc, totalement mobilisés.
Je ne doute pas de votre mobilisation.
Pour la vaccination et donc...
Mais est-ce que vous allez vraiment, comme cela a été annoncé, une dépêche AFP qui est tombée au milieu de l'été annonçant votre départ, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous allez partir? Et si oui, quand allez-vous partir?
Eh bien écoutez, aujourd'hui, je vous le répète, je suis complètement mobilisé. Donc mon seul sujet, c'est de réussir cette rentrée en sécurité et de réussir la grande campagne en cette rentrée tous vaccinés.
Bon, on n'aura pas de réponse à ce départ potentiel. Alors,
vous n'avez pas émis le souhait de partir?
Ah ben je crois qu'on a tellement de sujets actuellement pour mobiliser les équipes, pour réussir cette lutte contre la pandémie, pour répondre aux enjeux des professionnels de santé, pour refonder la santé publique, à énormément de sujets, donc complètement mobilisé.
Mais votre départ a été annoncé, qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas partir, mais votre départ a été annoncé quand même? Quelle est la réponse exactement?
Bah écoutez, je vous ai dit, moi je suis totalement mobilisé, donc voilà, engagé, et c'est ça l'essentiel.
Jérôme Salomon, si on fait un bilan à un an et demi de cette pandémie, quel est votre bilan? Vous êtes passé d'un anonymat relatif, professeur de médecine, infectiologue, à une notoriété exceptionnelle, il faut le dire, tous les soirs dans le salon des Français, dans une période où ils étaient bloqués chez eux. Vous les avez tenus au courant. Vous avez à nouveau disparu, en tout cas de la télévision. Quel bilan vous faites, vous, de cette année et demie?
Je crois que... On peut être extrêmement confiant parce que je trouve que les Français font preuve d'énormément de bon sens. Ils ont compris l'intérêt des tests, de l'isolement, ils ont compris l'intérêt de la vaccination parce qu'on est vraiment un des pays aujourd'hui les plus vaccinés. Ils ont compris même peut-être l'intérêt d'un projet collectif pour revivre ensemble, et ça c'est très très puissant. Et puis il y a aussi un message que je voudrais passer, qui est une immense fierté, une immense reconnaissance pour les professionnels de santé, parce qu'on les a applaudis beaucoup, on ne les applaudit plus, et moi je trouve qu'ils méritent toujours leur applaudissement. Je disais qu'en plein mois d'août, j'avais été à Orly accompagner les centaines de soignants qui partent comme ça de façon volontaire, avec un engagement, une foi extraordinaire dans l'entraide, dans l'empathie, pour aller aider les collègues aux Antilles, par exemple, et ça, je trouve ça magnifique. Donc, on parle beaucoup de quelques soignants qui pourraient douter, et c'est normal de douter, mais on ne parle pas de tous les soignants qui sont tout le temps sur le front, de ceux qui, ce week-end-là, en plein dimanche, sont en train de vacciner, et ça, c'est un très beau message. Donc, on a vraiment des professionnels de santé extraordinaires, on a évidemment des organisations à améliorer, ça, c'est évident, mais on a aussi beaucoup appris, on a aussi peut-être énormément progressé tous ensemble sur la prévention, sur la santé publique. Regardez aujourd'hui, les gestes barrières sont parfaitement maîtrisés, les enfants sont parfois meilleurs que leurs parents. Et donc, toute cette mobilisation de la société vis-à-vis des gestes barrières, vis-à-vis de la science, parce qu'on a aussi reparlé de science, peut-être pas assez, qu'est-ce qu'un ARN messager, qu'est-ce qu'un virus?
Le grand public a découvert que les scientifiques s'engueulaient entre eux. Parce que ça a toujours existé, nous ne le savions pas.
Et c'est normal, parce que c'est du débat que progresse la science, et les scientifiques, comme les médecins, ont des opinions différentes, et c'est comme ça qu'on avance, parce qu'on teste des hypothèses. Et donc tout ce débat scientifique, tout cet enjeu de progrès, de recherche d'ailleurs, a beaucoup mobilisé. Vous avez noté que les jeunes parlent de plus en plus de science. Ils ont compris ce que c'était qu'un vaccin, ils ont compris ce que c'était qu'une circulation virale, ils ont compris aussi que tous ces enjeux de santé et toutes ces menaces étaient désormais planétaires, parce que notre petite Terre est vraiment aujourd'hui un village. Donc tout ça fait que les Français ont énormément progressé et qu'ils peuvent être fiers de leurs professionnels de santé.
Je parlais des Français, de la place que vous avez reprise dans leur vie durant des semaines et des semaines, Jérôme Salomon. Est-ce qu'il y a des choses à titre personnel qui vous ont touché? Vous avez été la cible d'attaque aussi au cœur de cette pandémie.
Oui, mais ma personne ne compte pas. En fait, moi mon objectif,
c'est... Mais vous restez un être humain qui peut, au cœur de sa fonction, être touché par ce qu'il traverse.
Mais vous savez, quand on est soignant, on a toute la gamme des émotions. Et quand je dis ça, je pense que tous les professionnels de santé le savent. Il y a des personnes qui vous insultent parce qu'ils sont stressés. Il y a des personnes qui vous remercient pendant des années. C'est ça toute la richesse aussi de la relation de soignant à soigné. Et donc, je dirais qu'il y a eu énormément d'inquiétudes, il y a eu énormément d'angoisse au début, des peurs majeures. Et que la seule façon de répondre à ces inquiétudes et à ces angoisses, c'est expliquer. Alors peut-être qu'on l'a pas fait suffisamment. Peut-être
il y a des choses que vous regrettez.
Pas la bonne personne. Je dirais que j'ai regretté de ne pas avoir suffisamment de temps. Et on peut pas tout faire à la fois quand on est à gérer au cœur d'une gestion de crise. De temps pour expliquer pendant des heures, parce que je pense que ce sujet mérite des heures d'explication. Et donc merci à vous de me donner cette heure. Parce qu'il y a énormément de questions qui sont souvent des questions très légitimes et très complexes. Et je pense que plus on explique, moins les gens ont peur, plus ils sont convaincus.
vous avez douté de votre place, vous avez dit à l'instant, peut-être n'étais-je pas la bonne personne.
Mais parce qu'il faut trouver la personne qui explique le mieux. Donc ça peut être une personne, un vaccinologue quand on parle de vaccin, un immuno quand on parle d'anticorps, un pédiatre quand on parle... Parce que c'est très important d'avoir la personne en qui vous avez confiance. Et donc vous avez davantage confiance quand un pédiatre parle, parle d'enfant, vous avez davantage confiance quand un cancérologue vous parle de cancer, et vous avez davantage confiance, et ça c'est très important, dans les personnes qui vous sont proches. Donc on a beaucoup aussi privilégié la communication locale, la communication par les autorités locales, la communication par le médecin du CHU, le médecin généraliste du lieu. Les Français sont très attachés à leurs professionnels de santé de proximité et ils ont beaucoup communiqué. Et donc, je le redis encore aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir votre pharmacien, n'hésitez pas à aller voir votre médecin traitant, parce que c'est la personne en qui vous avez confiance et qui a toutes les réponses.
Professeur Salomon, vous avez répondu à des questions avant d'expliquer la pandémie aux Français. Vous aviez expliqué des choses en matière de santé au candidat Emmanuel Macron, puisque sur votre temps libre, vous l'avez conseillé sur les sujets de santé pendant la dernière campagne présidentielle. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous revoyez faire en vue de 2022 ?
C'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est un exercice difficile qui nécessite du temps et qui, je pense, passionne les Français, qui est de tenter de réfléchir tous ensemble, non pas aux enjeux politiques, mais aux enjeux collectif qui nous menace. C'est très intéressant de faire un exercice de prospective, d'anticipation, de se dire quels sont les grands risques qui nous menacent. Et aujourd'hui, les Français sont très inquiets pour la santé, ils sont aussi très inquiets pour l'environnement, pour les menaces climatiques. Et donc cet aspect-là d'exercice totalement non politique, d'anticipation des risques, est un exercice tout à fait intéressant. Et donc beaucoup d'experts qui le font. Je crois que le président de la République est complètement convaincu de l'importance d'anticiper. Je crois que c'est une des personnes qui s'est le plus mobilisé, le plus engagé dans la compréhension de cette pandémie. Voilà, c'est un exercice extrêmement riche, individuel et collectif, que de réfléchir aux menaces qui viennent et comment les anticiper au mieux.
Comme plusieurs ministres, vous avez été perquisitionné dans le cadre d'une enquête sur la gestion de crise. Où en est cette enquête ?
Moi, je n'étais pas ministre. Donc,
non, mais comme plusieurs ministres.
La démarche, effectivement, est en cours. Donc, on n'a pas à commenter une instruction qui est en cours côté Cour de justice de la République.
Je voudrais maintenant vous interroger sur le pass sanitaire. Mais juste avant, une petite question, et elle est importante, elle est très précise, sur les centres de vaccination.
Est-ce qu'ils vont être amenés très prochainement à fermer, notamment pour les plus grands, sachant qu'on a vu le rythme de primo-vaccination décroître nettement ? On n'avait pas atteint un rythme aussi faible depuis 6 mois, par exemple, sur les primo-injections.
Alors, l'objectif n'est pas de fermer, hein. L'objectif est vraiment d'encourager au maximum cette vaccination. C'est le cas ce week-end et ça sera le cas évidemment pendant toute cette rentrée. Moi, je dirais qu'il va y avoir un événement important qui va être la réussite de la campagne pour les plus fragiles. Là, on protège les personnes les plus fragiles, à la fois de rappel et de vaccination contre la grippe. Pourquoi contre la grippe ? Parce qu'on va voir revenir les virus saisonniers. Alors, on a beaucoup progressé, les Français collectivement ont progressé dans les mesures barrières. C'est peut-être pour ça que l'année dernière, il y a eu moins de gastro-entérite, par exemple, ou de bronchiolite. Mais on sait que les pédiatres se méfient de cet hiver. On en parlait encore récemment. Et donc, on a tout intérêt à protéger au mieux les personnes de plus de 65 ans, les personnes fragiles, les personnes qui ont eu, par exemple, le vaccin Janssen. Et donc, toutes ces personnes sont appelées, et ça marche déjà, puisqu'il y a déjà plus de 200 000 personnes qui ont pris rendez-vous, à faire ce rappel, en sachant qu'il y a ce rappel Covid, puis le rappel vaccination grippale qui aura lieu à la fin du mois d'octobre et jusqu'à Noël. Et donc, pour réussir ces deux injections, ce sont les mêmes personnes. Donc, quand on fait le Covid, il faut penser à la grippe. Quand on fait la grippe, il faut penser au Covid. Et on peut faire les deux en même temps chez le même professionnel. Oui. Donc, on est vraiment dans une logique de simplicité.
Donc, on pourra se faire vacciner contre la grippe dans un centre de vaccination?
Alors, c'est ce qu'on va essayer d'organiser. On va voir quelles sont les situations les plus simples. Vous savez que les Français aiment beaucoup se faire vacciner directement chez leur professionnel de santé. Donc, on va essayer de s'organiser pour que ce soit le plus simple possible avec l'assurance maladie, pour que les deux vaccinations soient faites, pour couvrir au mieux ces populations fragiles contre le risque d'avoir des formes graves et pour protéger, là encore, les établissements de santé face à un afflux de personnes malades au cours de l'automne.
Donc, malgré le baisse du rythme de vaccination,
mais
les centres vont perdurer dans les semaines qui viennent.
C'est que le rythme reprenne, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec les ados, avec les centaines de milliers de personnes qu'on va chercher, et les quelques millions de personnes qui sont dans cette fameuse cible, dans cette population éligible, qu'il faut encore aller convaincre, eh bien, on a tout intérêt à réussir collectivement cette campagne de vaccination.
Monsieur Salomon, je voudrais que nous nous intéressions au pass sanitaire. C'est une... Comment pourrais-je dire ? C'est un devoir, en même temps c'est une lourdeur pour beaucoup, pour des professionnels, pour des particuliers. Bref, en tout cas c'est un dispositif qui a été mis en place graduellement, avec différentes étapes. Et c'est aussi un dispositif que la justice, à de nombreuses reprises, a suspendu. Il y a eu des décisions encore ces dernières heures, dans beaucoup de départements, je pense notamment au sud-ouest, dans les Landes par exemple, où la justice a dit non, pour ce centre commercial, nous allons suspendre l'obligation du pass sanitaire. Est-ce que le dispositif est efficace? Est-ce qu'il va pouvoir survivre à toutes ces difficultés d'ordre judiciaire administratif?
Moi, je crois que c'est un dispositif, contrairement à ce qu'on entend souvent, qui est très bien compris des Français. Non seulement il est très bien compris, c'est un outil de réduction des risques. Ce n'est pas une sécurité absolue, on est tous conscients qu'on peut avoir des personnes positives malgré tout, on voit bien pourquoi, hein. On en a parlé tout à l'heure. Mais c'est je crois même une réassurance collective, et beaucoup de gens le perçoivent comme ça quand on discute avec eux. Bah oui, ici, on m'a demandé mon pass, et c'est normal, et ça me rassure. On le voit aussi beaucoup dans les enquêtes, les gens vous disent un endroit où le pass sanitaire est demandé, c'est aussi une façon de revivre ensemble, et surtout de revenir dans des activités normales. Donc cette possibilité d'avoir des activités normales, de ne pas fermer une activité à haut risque parce qu'il y a le pass sanitaire, les gens l'ont parfaitement compris. Il y a une bonne adhésion aujourd'hui au pass sanitaire. Les gens ont aussi compris que c'était un dispositif de réduction des risques temporaire, parce qu'on n'est pas parti pour 15 ans avec le pass sanitaire, il faut quand même le dire. C'est parce que la situation l'exige, et on est évidemment conscient que c'est parce qu'il y a une
circulation virale. Oui, parfois la justice, virale. Pardon de revenir là-dessus, Monsieur Salomon dit, c'est efficace c'est, peut-être, mais là, ça n'est pas applicable.
Mais ça, c'est des décisions de justice qui concernent une situation particulière.
Multiplié, vous le savez.
Oui, mais on voit bien que c'est aussi des décisions qui ne sont pas toujours les mêmes selon le département, donc il y a peut-être des enjeux d'écriture. Mais là, en termes de symbole, c'est un outil de réduction des risques, et les gens l'ont parfaitement compris, et ça rassure beaucoup de gens. C'est une façon aussi de revivre tous ensemble, et c'est vraiment un projet collectif. Et surtout, et c'est très important, la décision du président de la République, à la fois sur le pass sanitaire et sur la vaccination, a fait que nous n'avons rien fermé en métropole cet été.
Professeur Salomon,
quelque chose d'important.
Vous dites on n'est pas parti pour 15 ans avec le pass sanitaire. Pour l'instant, on y est encore pour deux mois, puisqu'il y a une date d'échéance, le 15 novembre. Mais Olivier Véran, puis Emmanuel Macron ont évoqué une prolongation éventuelle du pass au-delà du 15 novembre. Quelle est selon vous la probabilité qu'il y ait prolongation ?
Aucune probabilité à donner, puisqu'on ne va pas faire des exercices de prévision. Simplement, tout ce qu'on espère, c'est qu'avec cette rentrée maîtrisée, sous contrôle, avec une campagne de vaccination réussie, on ait de nouveau la maîtrise. Et je pense que c'est ça l'objectif du président de la République, c'est la maîtrise de l'épidémie. On peut y arriver, c'est vraiment à portée de main, c'est-à-dire qu'on réussisse tous ensemble, avec les mesures barrières, les tests, les masques et la vaccination, avec les outils qu'on s'est mis, le pass sanitaire, l'aération des locaux, à avoir une épidémie contrôlée. Si on a une épidémie contrôlée, on se posera effectivement la question de savoir si on a besoin
d'une mais justement, il faut se la poser pas trop tard, parce que vous avez besoin de l'approbation du Parlement pour le prolonger.
Mais vous savez que tout dépend de l'évolution épidémiologique, et l'évolution de l'épidémie, elle dépend non pas du virus, mais de nous. C'est ça qui est vraiment très important de comprendre. Ce n'est pas le virus qui décide de fournir une nouvelle vague, c'est notre capacité de le contrer qui fait que nous n'aurons pas de rebond épidémique, parce que nous utiliserons tous les outils disponibles pour lutter contre ce virus.
Ils étaient anglais, d'autres nationalités, ils sont désormais symbolisés par des lettres grecques, les variants, et des inquiétudes évidemment pour nos compatriotes.
Et un nouveau variant, le variant Mu, classé à suivre par l'OMS cette semaine. Quel est l'état de la menace en France? Sait-on s'il va prendre le dessus, s'il peut prendre le dessus sur le Delta?
Alors, vous savez qu'il y a trois catégories. Il y a les variants qu'on suit de façon très attentive, les variants qui sont préoccupants, inquiétants, donc notamment le variant Delta. Il y a des variants qui sont en cours d'investigation sous surveillance, et puis c'est des nouveaux variants qui sont surveillés. Et donc, il y a le variant Mu, qui est, entre guillemets, très présent en Colombie, et puis il y a même un autre variant en Afrique du Sud. Ces variants, ils sont partagés au niveau mondial, ils sont surveillés au niveau national, puisque nous avons à la fois le criblage et le séquençage qui fait qu'on se rend compte que depuis qu'il a émergé, il est totalement anecdotique en France. Hein, c'est vraiment quelques cas sporadiques souvent importés. Et vous savez qu'un virus, il a trois caractéristiques. Sa contagiosité, sa gravité, sa virulence, sa capacité de vous envoyer en réanimation, et son échappement, soit au traitement, soit au vaccin. Et donc, c'est un virus qui est bien connu, ce variant Mu, qui est effectivement dominant, majoritaire en Colombie, dont on ne sait pas s'il est plus préoccupant en termes de virulence, de gravité, et qui échappe partiellement, un petit peu comme le bêta, en termes d'échappement au vaccin. Mais la vraie question, c'est la contagiosité, puisque vous savez que les virus, ils font la compétition entre eux, et donc celui qui est le plus contagieux l'emporte. Or, comme on est aujourd'hui en Europe avec un variant Delta très prédominant et très contagieux, on n'a a priori pas beaucoup d'inquiétude aujourd'hui pour un variant Mu qui s'imposerait compte tenu de ces écarts de contagiosité. Mais par contre, tous ces variants sont contrôlés par la communauté scientifique mondiale, et nous avons les moyens en France, grâce aux efforts des biologistes, du criblage et du séquençage, de surveiller la circulation de ce variant, comme de tous les autres variants. Et il y aura d'autres variants, puisque c'est la nature du virus que de muter.
Il y a le fameux variant Delta qui empêche ce qu'on essayait d'atteindre, c'est-à-dire l'immunité collective. Aujourd'hui, les scientifiques s'accordent plutôt à dire qu'on n'atteindra pas cette immunité collective à cause de la propagation du variant Delta. Est-ce que ce n'est pas un argument pour quelqu'un qui n'est pas forcément anti-vax, mais qui ne veut pas se faire vacciner, en disant, après tout, même avec les vaccins, on n'atteindra pas cette fameuse immunité collective?
Au contraire. En fait, ce n'est pas qu'il empêche. C'est que plus un virus est contagieux, plus on doit avoir une proportion de la population vaccinée importante. Donc la rougeole, par exemple, ou les oreillons, ou la rubéole, comme ce sont des virus très contagieux, on sait qu'il faut atteindre une proportion d'enfants très importante, proche de 100% pour les vacciner. Comme on a objectivement une part importante de la population qui ne peut pas être vaccinée, ce sont les moins de 12 ans, et bien tous les plus de 12 ans doivent participer à ce projet collectif d'avoir une barrière collective la plus haute possible. Et ce qui n'empêche qu'avec cette vaccination, avec les mesures barrières, avec le testé, alerté, protégé, et avec toutes les mesures d'à côté qu'on signale assez régulièrement, comme l'aération, comme les distances, etc., tout ça contribue à freiner considérablement la diffusion de ce virus.
Un mot qui est une curiosité de ma part, Monsieur Salomon, j'ai beaucoup entendu et lu ces derniers jours que dans les bouquins de médecine, première année, il est marqué qu'une pandémie, ça dure 2 ans. Alors, est-ce que personne n'a voulu nous le dire pour ne pas nous effrayer, ou est-ce que tout le monde a oublié, enfin tous les scientifiques ont oublié leur premier cours de médecine?
Alors, d'abord, il faut le dire, assez humble et modeste face à une durée de pandémie pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on connaît peu de pandémies. La seule pandémie qu'on connaît, c'est la pandémie de grippe. On va dire que les dernières pandémies de grippe sont celles de 1917, 1957, 1968. Donc ça commence à faire longtemps. C'était pas du tout les mêmes conditions de circulation mondiale. Il n'y avait pas les mêmes transports. Et c'est la première pandémie de coronavirus. Mais on sait aussi, et ça c'est un élément important, qu'il y aura un moment où ce virus, entre guillemets, soit disparaîtra, soit deviendra complètement banal. Heureusement, c'est-à-dire qu'il y aura une fin à cette pandémie. À la date de cette fin, je crois que personne n'est capable de la donner, mais on est quand même tous conscients qu'il y aura une fin à cette pandémie et que plus on est mobilisé, plus cette fin se rapproche.
Sans donner une date de fin de pandémie, est-ce qu'on est, comme l'a dit le Premier ministre cette semaine, en chemin, en bonne voie pour un retour à la vie normale?
Je crois qu'on est en bonne voie parce que les Français l'ont compris. C'est-à-dire que les Français ont compris parfaitement les mesures barrières. C'est vraiment très impressionnant de voir aujourd'hui les enfants au collège se laver les mains sans problème, mettre leur masque, etc. Ils sont quand même avec une vraie adhésion collective à la vaccination. Plus de 80% de la population cible totalement vaccinée aujourd'hui, c'est quand même un très beau résultat. Ils ont compris l'ensemble des mesures barrières. Et donc, le pass sanitaire, vous en parliez, contribue à ce qu'on continue à avoir des activités normales, à retourner dans les commerces, à avoir des activités culturelles et sportives. C'est important, les activités culturelles et sportives, surtout pour la santé mentale des Français. Et donc, tous ces éléments, tous ces outils disponibles, parce qu'aujourd'hui on a vraiment tous les outils, nous permettent d'envisager effectivement une nette amélioration avec cette mobilisation collective.
Je suis désolé, mais le temps file. Il y a une question sur laquelle je voudrais absolument vous entendre parce que c'est très important. Les traitements. Alors, il y a encore un article important aujourd'hui dans la presse pour parler de l'arrivée de nouveaux traitements des anticorps monoclonaux, mais il y a des traitements, l'ivermectine par exemple, qui est présenté par certains comme un miracle. Sauf qu'il y a des dangers colossaux. Je vais vous montrer une communication de la FDA, c'est l'association américaine qui gère les médicaments.
L'agence, oui.
Elle dit, vous n'êtes pas un cheval, vous n'êtes pas une vache, sérieusement, vous tous, arrêtez ça. Certains hôpitaux aux États-Unis sont bondés de gens qui font des overdoses d'ivermectine. Des patients plus graves ne peuvent plus être pris en charge. Margot me disait hors antenne qu'en France, des pharmacies se retrouvent à délivrer ces médicaments. Que pouvez-vous dire aux gens qui nous regardent sur ce traitement?
Alors, très clairement, il y a le vaccin, c'est la première prévention pour éviter d'être malade, et c'est évidemment très efficace pour ne pas se retrouver en milieu hospitalier ou en réanimation. Deuxièmement, il y a énormément de traitements qui sont déjà disponibles et d'autres qui arrivent. On a encore des résultats de la NSM très récemment. Et donc, il y a des anticorps monoclonaux, c'est très important, il y a des antiviraux d'action directe qui sont maintenant autorisés, et il y a même des immunomodulateurs qui sont disponibles en réanimation. Donc la panoplie thérapeutique est en train de s'étendre. Les réanimateurs font des progrès considérables dans la prise en charge des malades. Il y a même des anticorps monoclonaux, et on en a beaucoup envoyé aux Antilles, qui servent en prophylaxie. Ça, c'est pas assez connu des patients. Un patient fragile, un patient immunodéprimé, un patient qui a une maladie très grave peut bénéficier d'anticorps monoclonaux en préventif quand on est dans une phase épidémique comme on la vit aux Antilles.
Mais on n'a pas demandé à son médecin de l'ivermectine et on va le chercher à la pharmacie.
Et pourquoi je dis ça? C'est pas cette molécule ou une autre, c'est qu'il faut faire confiance en la science. Toutes ces molécules peuvent être testées, d'ailleurs elles sont testées par les autorités internationales, par certaines équipes, mais tant que ces molécules n'ont pas eu la confirmation par une publication qu'elles sont bénéfiques, ouais, d'une part en termes d'efficacité, et qu'elles n'ont pas d'effets secondaires graves, donc là encore le bénéfice risque et les effets secondaires, il ne vaut mieux pas s'aventurer dans ce genre de traitements qui n'ont pas encore eu l'estampille internationale par les publications et par les essais.
Une question qui nous emmène à Marseille. Le professeur Didier Raoult est à la retraite depuis mercredi, en tout cas en tant que professeur d'université et praticien hospitalier. Il pourrait perdre son poste de directeur de l'IHU le 17 septembre parce que le conseil d'administration se réunit. Est-ce que vous pensez que le professeur Raoult doit partir à la retraite maintenant ?
Je ne vais pas prendre position sur la prise de retraite d'un collègue. Il y a un institut hospitalier universitaire qui est un institut très important, parce qu'il y a peu d'instituts hospitaliers universitaires en France. Ce sont des équipes, il y a du monde à Marseille, et ces équipes doivent avoir la meilleure activité scientifique possible et la production de recherche la plus internationalement reconnue possible. Et donc, ce sera aux autorités locales et au conseil d'administration de l'institut hospitalier universitaire de Marseille de se prononcer.
Merci beaucoup, Monsieur Salomon, d'avoir accepté notre invitation ce midi sur BFM TV. Merci Margot et à très bientôt. Louis, on se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt, Jean-Baptiste.
Pour un nouveau BFM Politique, voici Philippe Godin, Dominique Rizet, affaire suivante. Je vous retrouve à 18h pour BFM TV SD avec un programme extrêmement riche. Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord. Samia Maktouf, qui est avocate des victimes des attentats du 13 novembre à Paris, alors que le procès débute mercredi prochain. Et puis l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic sera mon invité à 19h. À tout à l'heure.